L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes le 9 octobre 2012 à Mingora, une ville de 300 000 habitants dans le nord du Pakistan. Mingora fait partie de l'époustouflante vallée du Swat, qu'on appelle aussi la Suisse du Pakistan. Il n'y a pas si longtemps, des touristes du monde entier venaient y admirer ces paysages verdoyants, ces célestes montagnes et bien sûr, sa rivière, la rivière Swat, qui prend sa source dans les montagnes de l'Hindou Kush, en Himalaya. J'aimerais vous raconter que le rideau de notre heure H s'ouvre aujourd'hui sur ce décor enchanté. Malheureusement, au moment où commence notre histoire, le Swat est une sombre scène de guerre où se côtoient militaires pakistanais, snipers américains et des hommes en turban noir, qu'on appelle les talibans. Dans les rues de Mingora, l'air pur des montagnes a été chassé par les nuages étouffants des incendies et la poussière des véhicules militaires. Le ciel bleu est une autoroute où se croisent drones et hélicoptères. De nombreuses maisons et immeubles ont été détruits et quand ils tiennent encore debout, ils sont criblés d'impacts de balles. Au milieu de ce paysage apocalyptique, dans une maison de crépi blanc ternie par la pollution, vit une jeune pachtoune. Elle a 15 ans. Elle s'appelle Malala Yousafzai. Contrairement à la majorité des jeunes filles de ce monde, Malala n'est pas libre de s'habiller comme elle le souhaite, de porter des chaussures blanches ou du vernis, de se rendre dans un parc. Il y a quelques années, on lui a enlevé la télévision, la musique et beaucoup de sa joie de vivre aussi. Mais elle a continué de rire. Un jour, on lui a interdit l'école et toute chance d'apprendre et de s'enrichir. Mais elle a continué de s'y rendre en secret, avec la complicité de son père et de son professeur insoumis. À chaque fois, elle se demande si on l'arrêtera, si on l'insultera, si on lui jetera du vitriol au visage ou même si son école sera encore là. Et ce qui l'attend aujourd'hui est bien pire. Il est 13h08, c'est l'heure H de mon histoire. En ce début d'après-midi, c'est en bus que Malala rentre de l'école avec d'autres amis de sa classe. Comme toutes les jeunes filles de cet âge, elle bavarde, elle plaisante et rit à l'arrière du véhicule. Le bus de l'école traverse calmement la ville, franchissant les barrages de l'armée et longeant les repères des talibans. Soudain, il freine brusquement, à moins de 200 mètres du checkpoint de l'armée. Les jeunes filles se taisent immédiatement. En une seconde, celles qui avaient abaissé leur voile le réajustent. Elles retiennent leur souffle et se font petites, toutes petites, invisibles, comme on le leur a appris. Elles entendent un homme interroger le chauffeur. « C'est le bus de l'école Kushal ?»« Oui, » répond le chauffeur avec calme. « J'ai besoin de renseignements sur les élèves. » Les deux hommes discutent. Les jeunes filles osent à peine cligner des yeux. Elles gardent le silence. Tout à coup, la porte arrière du véhicule s'ouvre. Un homme vêtu de blanc dévisage les enfants, pétrifiés. « Laquelle d'entre vous est Malala ? » aboie-t-il. Par réflexe, les écolières se retournent vers leur ami. L'homme suit leur regard. Déjà, il sort une arme de sa tunique et la pointe sur Malala qui, instinctivement, se baisse. Mais les coups sont déjà partis et une balle vient frapper la jeune fille en pleine tête, juste au-dessus de son œil gauche. Son corps s'effondre sur les genoux de sa voisine qui se met à hurler. L'homme en blanc prend aussitôt la fuite. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter le combat de Malala Yousafzai. Pour hélas, de trop nombreuses personnes, ce nom ne signifie rien. Pourtant, nous devrions tous connaître son histoire, l'histoire invraisemblable, incompréhensible, d'une jeune Pakistanaise victime d'une balle tirée à bout portant par un taliban. Son crime ? Aller à l'école. L'accès à l'éducation nous semble ici acquis. Et nous écoutons tous les matins, le sourire en coin, nos enfants se plaindre de ce que nous leur imposons. Pourtant, Il est encore des pays où des enfants travaillent, où des écoles explosent, où l'on offre des jeunes filles en mariage plutôt que de leur offrir une éducation. Alors aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans un des plus beaux pays du monde, le Pakistan, à la rencontre d'une jeune fille qui, du haut de ses 15 ans, a osé défier toute une armée de terroristes. Malala est une enfant pachtoune de la région du Swat, au Pakistan. À elle seule, cette jeune fille incarne toute la complexité identitaire d'un pays. Elle est née dans la région du Swat, un ancien état princier qu'on appelait Udiana, jardin, jusqu'à ce qu'il soit rattaché au Pakistan à la fin des années 60. Mais si Malala est une Swati, elle fait aussi partie d'une des nombreuses tribus pachtounes, un peuple originaire d'Iran qui aujourd'hui vit en majorité au Pakistan. Malala avait coutume de dire « Je suis né en fier enfant du Pakistan, même si, comme tous les Swatis, nous nous considérons d'abord comme des Swatis, puis des pachtounes, avant de nous dire pakistanais. Et pour cause. » Comment s'identifier à un pays si récent qui n'a jamais connu que les conflits géopolitiques, culturels et religieux? C'est toute une génération de Pakistanais qui se souvient encore de la création de ce pays à la fin des années 40. Née de la volonté de fonder une nation pour les musulmans de l'Inde, la région a d'abord été le théâtre d'un exode massif et sanglant des musulmans indiens vers le Pakistan et des hindous vers l'Inde. Près de 2 millions de personnes y ont trouvé la mort. Depuis, le pays n'a jamais réellement trouvé de stabilité. Au conflit entre musulmans et hindous s'est ajouté celui qui oppose sunnites et chiites. La vie politique, tout aussi agitée, a été marquée par une longue succession de dirigeants, se chassant les uns les autres à coups de coups d'État. Sous le joug de militaires de plus en plus religieux, le Pakistan a lentement sombré dans une profonde islamisation. Et petit à petit, la charia, la loi islamique, s'est immiscée dans les lois pénales du pays. C'est à cette époque que remonte la création d'un mouvement religieux constitué de fondamentalistes islamistes, qu'on appellera plus tard les talibans. À l'origine, ce mouvement est composé de réfugiés afghans installés au Pakistan suite à l'invasion soviétique de leur pays dans les années 80. Dans ce que l'on appelle des madrasas, des écoles coraniques, de jeunes afghans et pakistanais sont formés au djihad. Leur objectif ? Lutter contre les soviétiques et réislamiser les mœurs des populations musulmanes. Parmi eux, un homme en particulier va se faire un nom. Il s'appelle Oussama Ben Laden. Issu d'une famille fortunée, originaire du Yémen, il se voit confier l'organisation des transferts, de l'installation puis la formation des militants afghans à Peshawar, au Pakistan. Il lève des fonds pour la cause afghane, y consacrant lui-même une partie de sa fortune et avec le soutien financier des Américains, il assure l'approvisionnement en armes de ces djihadistes. Ce groupe de militants prendra de l'ampleur jusqu'à devenir une force géopolitique importante. 15 ans plus tard, ils repartiront à la conquête de Kaboul, puis de tout l'Afghanistan. Paradoxalement, pendant ces 15 années, le Pakistan, qui voit grandir en son sein l'idéologie talibane, sera marqué par un retour à une relative démocratie et une cohabitation pour le moins surprenante. Sous la présidence d'un certain Ghulam Ishaq Khan, le premier ministre est une femme. Ouais. Elle s'appelle Benazir Bhutto et c'est la première femme à la tête d'un État musulman. C'est donc dans un Pakistan illusoirement modéré, mais définitivement complexe, que Malala voit le jour. Sa petite enfance, à Mingora, la principale ville du Swat, est heureuse. Fille du directeur de l'école Kushal, elle grandit entre les pupitres et les livres, entourée de ses deux petits frères. Son père, Ziauddin, lui dit souvent qu'elle a beaucoup de chance. Il lui explique que chez leurs voisins afghans, un groupe d'étudiants en théologie appelés « talibans » ont interdit à toutes les petites afghanes d'aller à l'école. Là-bas, les femmes ne peuvent plus sortir de chez elles, à moins d'être accompagnées par un membre de leur famille. Alors que les femmes afghanes sont progressivement privées de leurs droits et de leur liberté, les musulmanes pakistanaises voient leurs conditions de vie s'améliorer. Enfin, de façon relative. Après Ghulam Ishaq Khan, le nouveau président, Pervez Musharraf, vient d'abolir une loi selon laquelle une femme, victime de viol, doit apporter 4 témoignages pour être disculpée d'adultère. Oui, vous avez bien entendu. Par la suite, il apportera également un adoucissement de la peine qui condamne l'adultère. La mise à mort par lapidation est remplacée par l'incarcération. Hélas, cette parenthèse démocratique va progressivement se refermer. Nous sommes le 11 septembre 2001 et le monde a les yeux tournés avec horreur vers les 2 tours du World Trade Center et le Pentagone. Ce jour-là, 4 attentats suicides provoquent la mort de près de 3000 personnes à New York, en Virginie et en Pennsylvanie. Ils sont revendiqués par une organisation islamiste appelée Al-Qaïda. Leur leader, Oussama Ben Laden, devient l'individu le plus recherché au monde. La guerre contre le terrorisme est ouverte. En ligne de mire des Américains, l'Afghanistan et son régime taliban pro-Ben Laden qui refuse de livrer le célèbre terroriste. Le modéré président pakistanais, Pervez Musharraf, devient alors malgré lui un allié des Américains dans leur lutte antiterroriste. Et l'Amérique lui verse des millions de dollars pour la capture des membres du réseau Al-Qaïda, soupçonnés pour certains de se cacher au Pakistan. Mais le président joue un double jeu car il sait que ses services secrets arment les talibans et cachent certains de leurs chefs. D'ailleurs, dans tout le pays, un nouveau militantisme anti-américain prend son essor, invitant le peuple à faire le djihad. Les talibans du Pakistan sont nés. Et sur les traces de leurs frères afghans, ils sont bien décidés à prendre également le contrôle de leur pays. Malala a 10 ans quand les talibans investissent le SWAT. Nous sommes en 2007. Au début, cela vous surprendra peut-être d'apprendre que les talibans ont été bien accueillis par la population swati. Dirigé par un jeune mollah charismatique de 28 ans, Maulana Fazlullah, ils sont plus modérés que leur alter ego afghan et disent simplement vouloir rétablir les traditions islamiques. Dans un premier temps, le Mollah Fazlullah crée une radio pirate, Mollah FM, tous les matins et tous les soirs. Il diffuse des messages avenants sur la façon dont le peuple musulman doit se comporter. Il invite les hommes à se laisser pousser la barbe. Il leur explique comment faire leur ablution pour se préparer à la prière. Les femmes sont invitées à ne pas porter de blanc, la couleur réservée aux hommes. Ces messages, porteurs de tradition, sont appréciés par les communautés du SWAT. Progressivement, les talibans vont aussi se substituer aux lois. Ils règlent les conflits locaux, remettant une justice rapide, qui n'exige pas de pot de vin, même si les peines infligées peuvent aller jusqu'à la flagellation. Les populations locales y trouvent leur compte, en particulier dans cette région qui se sont parfois éloignées de sa capitale, Islamabad. Ainsi, les talibans s'intègrent progressivement dans le paysage swati. Mais bientôt, l'étau se resserre et les messages de Fazlullah se font plus véhéments. Ils s'attaquent à la culture, à l'art et à toute forme d'influence occidentale. Bannissez les télévisions, jetez vos magnétoscopes, vos chaînes IFI, scandent-ils sur Mola FM. Ils sont infidèles à l'islam. En l'espace de 6 mois, écrira Malala, les gens se sont débarrassés de leurs télévisions, DVD et CD. Les hommes de Fazlullah les ont entassés dans les rues, y ont mis le feu et ils ont vomi des torrents de fumée noire. Fazlullah va même jusqu'à faire détruire les plus beaux vestiges bouddhistes du pays. Dans tout le Swat, on voit apparaître les drapeaux noirs et blancs du Mollah, y compris dans les bâtiments administratifs qui ont été petit à petit abandonnés par les fonctionnaires. Comme en Afghanistan, les femmes sont invitées à rester à la maison. Elles ne peuvent sortir qu'accompagnées d'un homme de la famille. Il leur est même interdit de rire. Et pour s'assurer de l'obéissance du peuple Swati, Fazlullah crée une police des mœurs. Patrouillant dans les rues de Mingora, armés de bâtons et de kalachnikovs, ces hommes rendent une justice de plus en plus violente et arbitraire. Chaque matin, les habitants de la vallée retrouvent des cadavres dans les rues. Nous n'avons pas le droit d'y toucher avant que les talibans nous en donnent l'ordre. Certains corps restent là pendant des jours. C'est abominable, surtout pour les enfants, racontera un commerçant de Mingora. Un matin, alors que Malala se prépare pour aller à l'école avec son père, ce dernier entre dans sa chambre. Il est blême. Pourtant, il s'y attendait. Sur Mola FM, Fazlullah vient d'annoncer que les filles ne devaient plus aller à l'école, que leur place est à la maison, et il invite les chefs de famille à les déscolariser. Ziaudine sait que ce n'est pas une invitation. Très vite, les avertissements pleuvent sur les directeurs qui ne ferment pas leurs écoles de filles et sur les familles qui continuent d'envoyer leurs filles à l'école. Le père de Malala réalise rapidement qu'il est lui-même dans le collimateur des talibans. Car en plus d'être directeur d'école, il milite activement en faveur de l'éducation des filles du Swat. Un soir, en rentrant chez lui, il trouve une lettre accrochée au portail de leur maison. « Cessez, ou vous aurez des ennuis et vos enfants vous pleureront. » Ziaudine hésite sur la marche à suivre. Sa raison le pousse à fermer son école, bien sûr. Mais son cœur le pousse à se battre pour ses idéaux. C'est Malala qui achève de le convaincre. « Papa, le Saint-Coran dit que nous devons rechercher la connaissance, étudier avec ardeur et apprendre les mystères de notre monde, » s'aligne-t-elle. « J'ai pas peur et je continuerai d'aller à l'école. Et toi, tu dois te battre pour que notre école ne ferme pas. » L'école Kouchal demeurera ouverte pour un temps. Et Malala, qui n'a pas 12 ans, continuera de se rendre à l'école en cachant ses livres sous son voile et armée de son seul courage. Déterminée à se battre, la petite fille va même aller plus loin. Elle a décidé de faire entendre sa voix. Grâce aux connexions de son père, l'opportunité lui est offerte de raconter son quotidien dans un blog de la BBC. Malala ne le sait pas encore, mais en signant ses articles, elle va également signer sa condamnation à mort.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Malala Yousafzai, une jeune écolière pakistanaise qui vit dans la vallée du Swat, région sous le contrôle des talibans. Bravant en secret un décret qui lui interdit l'école, Malala se rend chaque jour en classe, cachant ses livres sous son voile. À l'âge de 13 ans, elle devient célèbre dans le monde entier pour ses prises de position en faveur de l'éducation des filles et constitue une menace pour les talibans. Un jour, alors que Malala rentre de l'école, on lui tire une balle en pleine tête. Les talibans croyaient faire taire à jamais une petite écolière. Ils n'ont fait que donner une dimension mondiale à son combat. Malala, l'écolière qui fait peur aux talibans. Nous sommes à la fin des années 2000. Progressivement, les talibans ont métastasé tout le Pakistan. Ils représentent désormais une menace pour le gouvernement, celui-là même qui avait pourtant financé leurs armes quelques années plus tôt. La prise de la célèbre mosquée rouge d'Islamabad va véritablement mettre le feu aux poudres. Les talibans ont investi la mosquée. Ce qui était à l'origine une simple madrasa, une école coranique, est devenue une véritable pépinière de talibans et un important centre de contestation anti-gouvernement. Les jeunes recrues, hommes, femmes, enfants, y subissent un lavage de cerveau. Pire, on y forme les futurs kamikazes. En juillet 2007, profitant du fait que deux des principaux cerveaux talibans du pays s'y sont réfugiés, l'armée va lancer une offensive contre la mosquée. Pendant 35 heures, talibans et commandos pakistanais vont s'affronter. La mosquée tombe enfin et un des deux cerveaux est abattu. Le détonateur est enclenché. Les talibans font le serment de se venger du gouvernement. Dans le SWAT, Fazlullah annonce sur Mola FM que la guerre contre le gouvernement pakistanais est ouverte. Ce message, Malala s'en souvient bien. Elle fêtait ses 12 ans le soir de cette déclaration. Les mois qui suivent sont d'une violence inouïe. Dans tout le pays, une immense vague d'attentats-suicides se déchaîne. En réponse, l'armée va déployer tous ses moyens. Dans le SWAT, on appellera cette contre-offensive « Première bataille du SWAT ». Pendant des semaines, la petite Malala est témoin des combats sanglants qui opposent les tanks de l'armée pakistanaise aux grenades kamikazes. Mais quelques mois seulement après l'offensive de l'armée, les talibans ont repris le contrôle du SWAT. Le vice-président du Parti national, Awami, déclare avec amertume « Le SWAT est une partie du Pakistan, mais aucun gouverneur, ministre ou premier ministre ne peut s'y aventurer. » Les talibans gagnent aussi du terrain dans le reste du pays. Malala entend avec horreur qu'ils ont assassiné celle qu'elle admire depuis toute petite, l'ex-première ministre Benazir Bhutto. Qu'ils ont fait sauter le célèbre hôtel Marriott à Islamabad et qu'ils ont détruit plusieurs centaines d'écoles. Pourtant, à Mingora, elle continue de se rendre en classe chaque jour. Bon, elles ne sont plus qu'une dizaine de courageuses jeunes filles à se rendre à l'école, mais que leur reste-t-il, sinon l'éducation ? Que reste-t-il aux futures femmes du Pakistan ? On a couvert leurs visages et leurs sourires de longues robes noires, dont un grillage dissimule même leurs yeux. On les a privées du peu de droits qu'elles possédaient, de toute forme de divertissement. Alors elles s'accrochent à leur dernière chance d'apprendre, de s'élever intellectuellement et, quelque part, d'exister. Malala écrira « Aller en cours, lire, faire nos devoirs, c'était pas seulement un moyen de passer le temps, c'était notre avenir. » Mais Malala n'est pas seulement une enfant incroyablement courageuse et soucieuse de son avenir. En digne fille de son père, elle va aussi devenir une messagère et dénoncer haut et fort le sort des jeunes pakistanaises sous le régime des talibans. Depuis quelques mois, l'antenne pakistanaise de la BBC lui demande d'écrire pour son blog et de raconter son quotidien au milieu des combats du SWAT. Pour des raisons évidentes de sécurité, elle écrit sous le pseudonyme de la célèbre Gul Maké, l'héroïne d'un conte pachtoun. Son premier article, en ourdou, la langue nationale, s'intitulait « J'ai peur ». Malala y racontait sa vie depuis l'arrivée des talibans, l'horreur des attentats, les exécutions sur la place centrale de Mingora, rebaptisée la place sanglante, et les écoles qui explosent alors que les enfants sont encore en classe. Alors que se prépare la deuxième bataille du SWAT, les récits de Malala vont résonner bien au-delà de sa région. Je commençais à voir que la plume et les mots peuvent être bien plus puissants que les mitraillettes, les tanks et les hélicoptères. Écrira-t-elle plus tard. Nous sommes en avril 2009. Bien décidée à nettoyer une bonne fois pour toutes le pays de ces talibans, l'armée vient d'envoyer 30 000 soldats sur le terrain. Les populations des zones les plus touchées sont appelées à fuir au plus vite. Un demi-siècle après l'exode des musulmans de l'Inde vers le Pakistan, le pays connaît un nouvel exode de 3 millions d'habitants. Malala et sa famille sont contraints de quitter Mingora. De Shangla à Abbottabad, en passant par Peshawar, Islamabad et Haripur, la famille connaît une errance de plusieurs semaines, se déplaçant au gré de la générosité de cousins ou de parents éloignés. Ils vivront notamment plusieurs semaines à Abbottabad, sans se douter qu'à quelques rues de leur maison se terre Oussama Ben Laden et toute sa famille. Celui que l'on soupçonnait de s'être retranché dans une grotte vit en réalité dans une grande propriété, à côté d'une école militaire, au nez et à la barbe de l'armée pakistanaise. Enfin, c'est ce que cette dernière dira. Il faudra attendre 4 mois pour que le gouvernement déclare la fin des hostilités et annonce que les talibans ont été définitivement chassés. Les habitants peuvent enfin rentrer chez eux. Après des semaines d'itinérance, Malala et sa famille retrouvent leur ville, en ruine. À la tristesse s'ajoute un étrange pressentiment, celui que les talibans ne sont pas vraiment partis. C'est une paix à l'ombre des fusils, se désole Ziauddine, le père de Malala. Les talibans n'ont pas été détruits, juste écartés. Leur vengeance risque d'être terrible. Après tout, on sait que Fazlullah court toujours. Et en effet, les signes ne trompent pas. Des écoles continuent d'exploser dans toute la région. On raconte que des employés d'une organisation humanitaire chrétienne ont été enlevés puis exécutés. Le père de Malala recommence à recevoir des menaces. Et il n'est pas le seul. Cette fois, Malala est également visée. Les violents combats qui ont sévi au Pakistan n'ont pas échappé à la presse internationale, tout comme la plume enfantine et innocente de cette jeune anonyme du SWAT qui raconte son quotidien depuis plusieurs mois sur le blog de la BBC. Hélas, l'identité de Malala n'est pas longtemps restée secrète. À présent, des fondations et des associations humanitaires comme l'UNICEF l'invitent régulièrement à participer à des événements sur l'éducation. Des journalistes font appel à elle pour qu'elle témoigne sur ses conditions de vie. Elle est l'invitée de Géo, une des principales chaînes de télévision au Pakistan. En 2012, sa nomination au Prix international des enfants pour la paix de la fondation Kids Right, basée aux Pays-Bas, lui donne une aura internationale. Honneur suprême. Elle se voit remettre le Prix national de la jeunesse pour la paix, décerné par le gouvernement pakistanais. Le premier ministre pakistanais lui annonce même qu'il prévoit de renommer ce prix le prix Malala. Malala est sous les feux de la rampe et de plus en plus sous la menace des feux des talibans. Ceux-ci ne voient pas d'un très bon œil l'influence croissante de cette jeune infidèle qui se targue de les défier en se rendant à l'école en cachette. Un jour sur Internet, Malala découvre un message signé des talibans. Il dit ceci. Malala est une partisane de la laïcité et elle mérite la mort. Or, c'est plus qu'une menace. Le mollah Fazlullah vient de commanditer son attentat et Malala sera assassinée le 9 octobre 2012 à l'heure du déjeuner sur le trajet de l'école à son domicile. Mais pour autant, Malala n'a peut-être pas dit son dernier mot.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Malala, une jeune écolière pakistanaise qui vit dans la vallée du Swat, région sous le contrôle des talibans. Bravant en secret un décret qui lui interdit l'école, Malala se rend chaque jour en classe, cachant ses livres sous son voile. À l'âge de 13 ans, elle devient célèbre dans le monde entier pour ses prises de position en faveur de l'éducation des filles. Elle constitue désormais une menace pour les talibans. Un jour, alors que Malala rentre de l'école, on lui tire une balle en pleine tête. Les talibans croyaient faire taire à jamais une petite écolière. Ils n'ont fait que donner une dimension mondiale à son combat. L'enfant du Pakistan a survécu à la tentative d'assassinat. Amenée en urgence par le bus de l'école, Malala gît inconsciente dans un brancard de l'hôpital de Mingora. Les médecins la jugent dans un état critique, mais pour l'instant, elle respire. Son père, qui donnait une conférence devant un parterre de directeurs d'école, est enfin prévenu. Quand il arrive à l'hôpital, des dizaines de journalistes se pressent déjà devant l'entrée. Ziauddine traverse la foule sous les flashs des photographes et se rue au chevet de sa fille. Il lui parle, lui caresse les cheveux, les larmes aux yeux. Il interroge les médecins, demande les chances de survie de la jeune adolescente tout en lui serrant la main quand soudain, Malala sourit. C'est un miracle. Au début, les médecins se montrent relativement confiants. Il semblerait que la balle n'ait pas touché le cerveau. Elle est entrée au-dessus du sourcil gauche, a traversé le cou avant de se planter dans l'omoplate gauche, sans doute grâce au fait que Malala a eu le réflexe de se baisser. Mais il faut l'emmener d'urgence à Peshawar, où elle sera mieux prise en charge. Le gouvernement, déjà averti de la tentative d'assassinat, envoie immédiatement un hélicoptère et Malala est transportée en ambulance vers l'héliport. Chaque minute compte et il est impossible d'attendre sa mère. C'est donc Ziaudine qui accompagne la jeune fille. Du toit de sa maison, sa mère regarde le bruyant hélicoptère emporter sa fille et s'éloigner de la ville. Malala racontera plus tard qu'à ce moment-là, sa mère a arraché le foulard de sa tête, geste extrêmement rare pour une pachtoune, et l'a brandi à deux mains dans le ciel, comme s'il s'agissait d'une offrande. « Mon Dieu, je remets Malala à ta protection. Tu es notre protecteur. Elle était sous ta protection et tu dois nous la rendre. » À Peshawar, le comité d'accueil est impressionnant. Ministre, politiques, gouverneurs, dignitaires, journalistes et des centaines de Pakistanais sont venus voir Malala. L'état de la jeune fille s'est dégradé. Elle a vomi du sang et perdu connaissance. Les médecins s'avouent moins confiants qu'à Mingora. Le diagnostic tombe. Elle a un œdème cérébral. En quelques minutes, la jeune fille est conduite en salle d'opération. Dans les 24 heures qui vont suivre, le pays ne parlera plus que de Malala et de son combat pour la vie. La jeune adolescente fait la une des chaînes télévisées pakistanaises. Le président Azif Ali Zardari condamne avec force l'attentat et affirme, par la même occasion, qu'il continuera à combattre les rebelles islamistes et à défendre le droit des femmes à l'éducation. Dans tout le pays, hommes, femmes et enfants allument des bougies, organise des manifestations de soutien à Malala et à son combat pour l'éducation des filles du Pakistan. Bientôt, c'est toute la communauté internationale qui s'indigne. Les images de Malala, inconsciente, dans son lit d'hôpital, font le tour du monde et racontent comment une enfant a défié les talibans et a failli perdre la vie parce qu'elle allait à l'école en cachette. Le président Barack Obama dénonce un acte répréhensible, révoltant et tragique. La représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Catherine Ashton, dénonce, elle, une agression ignoble. Elle ajoute ceci. « Nous sommes consternés d'apprendre qu'une écolière pakistanaise de 15 ans a été attaquée hier par des extrémistes pour avoir défendu le droit des filles à l'éducation. La bravoure de Malala, pourtant si jeune, et la position de principe qu'elle défend sont une source d'admiration pour nous tous. » Le sort de Malala ne retient pas seulement l'attention des politiques. D'autres personnalités engagées vont se servir de leur notoriété pour faire connaître l'histoire de Malala auprès du reste du monde. Ainsi, Angelina Jolie, actrice militante pour les droits des enfants, publiera une tribune dans le Daily Beat afin de lui rendre hommage. Elle y fera part de son incompréhension et racontera comment elle a abordé le sujet avec ses propres enfants. C'était difficile pour eux de comprendre un monde dans lequel des hommes essaient de tuer un enfant dont le seul crime était de vouloir qu'elle et ses camarades soient autorisés à aller à l'école. Madonna dédiera sa chanson « Human Nature » à la jeune écolière lors d'un concert à Los Angeles. « Vous comprenez la folie et l'absurdité d'un tel crime ?» demande-t-elle à la foule. « Soutenez l'éducation, soutenez les gens qui militent pour les femmes. » Mais alors que Malala reçoit des messages de compassion et de soutien du monde entier, c'est un tout autre message que les talibans transmettent à l'AFP. L'attaque est revendiquée par Ehsanullah Ehsan, porte-parole des talibans du Pakistan et allié d'Al-Qaïda. Nous l'avions prévenu plusieurs fois qu'il fallait qu'elle cesse de parler contre les talibans, qu'elle arrête de soutenir les ONG occidentales et qu'elles prennent le chemin de l'islam. Quiconque critiquera les talibans subira le même sort, déclare Ehsan à l'AFP par téléphone depuis un lieu inconnu. 4 jours après la tentative d'assassinat, l'état de Malala est stationnaire. La jeune fille est toujours sous coma artificiel et les médecins s'inquiètent. On parle de la transférer en Europe, dans un meilleur hôpital. Ce sera le Queen Elizabeth Hospital de Birmingham. Touchée par son histoire, la famille royale d'Arabie Saoudite prête même son jet privé, médicalisé, afin d'emmener Malala en Angleterre. Le lendemain de son hospitalisation au Queen Elizabeth, Malala reprend enfin connaissance. Et bonne nouvelle, elle est sauvée. Retenue par de nombreuses barrières administratives et politiques, ses parents ne sont pas encore là, mais elle découvre avec émotion qu'elle est entourée de centaines d'ours en peluche, de boîtes de chocolat et de fleurs. Parmi les cadeaux les plus précieux, elle découvre un châle de son héroïne, Benazir Bhutto, ancienne première ministre du Pakistan, assassinée quelques années plus tôt. Ce sont les enfants de Benazir qui ont envoyé ce cadeau à Malala. Puis il y a aussi de nombreuses lettres envoyées par des enfants, des femmes et des hommes du monde entier. Parmi elles, des messages d'autres idoles comme Angelina Jolie, Beyoncé ou Selena Gomez. Enfin, après une longue attente de plusieurs jours, ses parents sont enfin autorisés à la rejoindre en Angleterre. Ils lui donneront la force d'affronter un tout autre combat, celui de la guérison. Malala subira une dizaine d'opérations avant de pouvoir à nouveau sourire, plisser les yeux, puis utiliser correctement ses bras et ses jambes. 3 mois après l'attentat, elle peut enfin sortir de l'hôpital et rentrer dans la nouvelle maison qui a été octroyée au Yousafzai, à Birmingham. À présent, Malala est plus déterminée que jamais et sachant qu'elle bénéficie désormais d'une écoute internationale, elle va faire entendre sa voix en faveur de l'éducation des filles dans le monde entier. Nous sommes le 10 octobre 2014. Nous sommes à l'hôtel de ville d'Oslo. Parée d'un châle rouge corail, Malala Yousafzai s'avance d'un pas assuré vers la tribune. Son visage, légèrement déformé, porte encore les séquelles de la tentative d'assassinat à laquelle elle a survécu 2 ans plus tôt. La jeune femme de 17 ans adresse un sourire aux centaines de personnes assises en face d'elle. Il y a là le roi et la reine de Norvège, le prince héritier Haakon et son épouse, la princesse Mette-Marit, ses parents, ses frères et des invités de marque venus des 4 coins du monde. Toutes et tous sont venus assister à la consécration internationale de Malala, qui vient de se voir codécerner le prix Nobel de la paix. L'autre lauréat est l'Indien Kailash Satyarthi. L'une est récompensée pour son combat en faveur des droits de l'éducation des enfants, et en particulier des filles. L'autre pour sa lutte contre le travail des enfants dans des usines où ils sont réduits à l'état d'esclavage. Une Pakistanaise et un Indien, côte à côte, liés par un même combat, tout un symbole. Avec ce prix, Malala devient la plus jeune lauréate de l'histoire à recevoir le prix Nobel. Je suis très fier d'être la première Pashtoune et la première jeune personne à recevoir cette récompense. Je suis presque sûr que je suis la seule titulaire du prix Nobel qui se bat encore avec ses petits frères, dira-t-elle avec humour dans son discours. Mais cette récompense n'est pas seulement pour moi. Elle est pour tous les enfants oubliés qui veulent une éducation. Pour tous les enfants effrayés qui veulent la paix. Pour tous les enfants sans voix qui souhaitent le changement. Même si j'ai l'air de n'être qu'une jeune fille qui ne mesure qu'1,57 m, talons compris. Je ne suis pas une seule voix. Je suis plusieurs voix. Je suis l'une de ces 66 millions de filles qui sont privées d'école. Plus qu'une figure emblématique de la résistance à l'obscurantisme islamiste, Malala est devenue ce jour-là un symbole des droits de l'enfance dans le monde entier. Malala a fait bon usage des nombreuses récompenses et dons qui ont salué son courage puis son travail en faveur de l'éducation. Elle a créé la fondation Malala. Les fonds vont à la reconstruction d'écoles ou à l'amélioration des conditions de vie dans celles-ci. Malheureusement, on le sait, le combat sera long. Selon les chiffres de l'UNICEF, plus d'une fille sur 6 ne va pas à l'école dans le monde. Parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles doivent travailler, parce qu'on les marie jeunes, ou parce qu'on considère qu'elles ne sont que des femmes et que leur place est à la maison. Ainsi, on estime qu'il faudra 100 ans pour que toutes les filles aient enfin accès à l'éducation. Dans le monde entier, des écolières sont encore victimes d'attentats. Des bus d'étudiantes continuent d'exploser, comme à Quetta il y a 10 ans. Des bombes frappent des écoles de filles, comme à Kaboul en 2021. Très récemment, en Iran, de jeunes écolières ont été empoisonnées par des gaz toxiques dans plusieurs écoles du pays. Les attaques ont commencé en décembre 2022. En mars 2023, on atteint les 5000 victimes au sein de 230 établissements. Des tentatives délibérées de forcer les écoles de filles à fermer. En 2013, Malala a été invitée à s'exprimer devant les Nations Unies à New York. Elle a ainsi conclu son discours. Ils pensaient que les balles nous réduiraient au silence. Mais ils ont échoué. Du silence, 1000 voix se sont élevées. Si nous voulons atteindre notre objectif, armons-nous de connaissances et protégeons-nous avec le bouclier de l'unité. Menons un combat mondial contre l'illettrisme, la pauvreté et le terrorisme et attrapons nos livres et nos cahiers. Ils sont nos armes les plus puissantes. Un enfant, un enseignant, un stylo et un livre peuvent changer le monde. L'éducation est la seule solution. Voilà pour ce récit inspirant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Adeline Drouin.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.